Müller, comme d'habitude, je laisserai le conférencier se présenter. Le thème, vous l'avez sûrement lu, les religions ont tendance donc à défendre des absolus, donc, etc. Alors, juste pour dire, Denis Müller est professeur honoraire de l'Université de Genève. Il est donc suisse, un confrère. Et je le remercie de s'être déplacé. Donc on repose, on se disait, il est du canton de Vaud. C'est un bon canton, je lui disais, on est du canton de Fribourg, c'est encore mieux. C'est plaisantant. Voilà. Donc le principe, la plupart, hein, vous êtes habitués, on laisse au conférencier le temps d'intervenir tranquillement, mais seul une heure et quart. Après, on prend une dizaine de minutes, parce que vous avez toujours des tas de choses à vous dire. Et puis après, on prendra les questions par groupe de deux ou trois, ce qui laisse la liberté au conférencier de répondre à celle qui veut ou de ne pas répondre. L'impératif qu'on a, 11h moins 10, on a fini, puisqu'on doit rendre la salle. Et maintenant, dans le nouveau protocole, la personne est censée faire un état des lieux avant et faire un état des lieux après. Bon, comme il nous connaît puis qu'on n'a jamais rien cassé, généralement, à 11h moins 10, il ne monte pas. Mais qui sait. En tout cas, Denis Müller, merci d'être là. Je vous laisse la parole pour vous présenter et pour intervenir donc sur les religions, etc. Merci.
Je remercie beaucoup Philippe Tinguely et les organisateurs de bureau qui a fait l'amitié de me recevoir et de partager un repas avec moi à l'instant avant de vous retrouver ce soir. C'est vraiment un grand voyage que de venir jusqu'à Belfort depuis la Suisse. Surtout que je ne suis ni vaudois ni genevois, mais un authentique neuchâtelois, avec l'accent, un authentique neuchâtelois, mais marié à une catholique belge, romaine par ailleurs, catholique romaine mais belge, qui a fait son école d'infirmière dans les années 60, comme nous sommes connus, à Fribourg, à la rue de Pérol. La Suisse est un village, je pense que la France aussi, un peu plus grand, un village irréductible gaulois. Et c'est un grand bonheur pour moi d'être parmi vous. J'ai toujours accepté de donner des conférences comme prof d'UNI à des milieux très divers comme le vôtre et des associations, des groupements de réflexion, de recherche, des groupes de laïcs ou de paroissiens, des groupes de scientifiques, des journalistes, etc., des banquiers, pourquoi pas, même s'ils ne venaient pas en général de la banque Rothschild. Et puis, voilà, je dois me présenter. J'ai deux qualités principales. D'une part, je suis un généraliste et non pas un spécialiste. Ma spécialité, c'est l'éthique comme généraliste. Ça, c'est ma première qualité. Puis la deuxième, mais elle ne m'attire pas que des amis, c'est que je suis un grand amoureux et un grand fanatique du football, auquel j'ai consacré en 2008 un livre de recherche de 250 pages. Vous trouvez dans ma bibliographie sur le site de la faculté de Genève. Je m'appelle Müller, donc je suis d'origine bernoise. Ma grand-mère, du côté maternel, s'appelait Barozzi, du Tessin, de Novaggio, Ticino, Svizzera Italiana. Donc je considère que je suis comme vous un authentique Européen. Car comme vous le savez, un Européen n'est pas nécessairement un membre de l'Union Européenne, mais un membre du Conseil de l'Europe, qui est beaucoup plus vaste. Et nous sommes membres, nous les Suisses, du Conseil de l'Europe comme vous. Nous en sommes fiers. Ce n'est pas le sujet de ma conférence. J'ai fait un petit document que j'ai préféré, en bonne pédagogie, vous distribuer après plutôt qu'avant, parce que j'ai trop l'habitude des étudiants qui feuillettent les documents de cours pendant qu'on parle. Comme vous, moi, j'ai mis mon téléphone portable devant moi, je ne vais pas le consulter, mais c'est pour vous, c'est ma montre. Donc, pour tenir le temps proposé par l'organisateur, et j'ai jeté sur cette feuille 8 propositions, 8 remarques, 8 thèses, si vous voulez, qui sont un peu ma colonne vertébrale, ou le plan que je vais suivre. Mais comme vous le voyez, j'ai pris avec moi ces 8 thèses, mais j'ai pas écrit une conférence de 25 pages. Quand j'avais 40 ans, je le faisais, mais
J'ai dépassé l'âge de la retraite, je n'écris plus mes conférences.
Vous devez bien me le pardonner. J'ai dit, je suis un généraliste de l'éthique, c'est-à-dire que durant mon parcours universitaire, je n'aime pas trop dire ma carrière, durant mon parcours universitaire, je suis un pasteur réformé, un pasteur protestant, marié à un catholique belge, comme je vous ai dit, un couple mixte, qui fait de la théologie très jeune. À 19 ans, je commence la théologie à Neuchâtel, je la finis à 23 ans, et à 23 ans, je suis pasteur à Neuchâtel et à l'église suisse de Londres, pour les jeunes filles au père et les jeunes étudiants suisses et français qui viennent étudier l'anglais dans la si belle ville de Londres, qui est chère à mon cœur. Ça se passait en français et non pas en anglais, mais j'ai quand même... Non seulement j'ai développé mes connaissances de l'anglais, mais j'ai vu quelques beaux matchs de football là, à la même occasion. Ensuite, après avoir été passé quelques années en paroisse, je vous explique brièvement en liminaire pourquoi je suis un généraliste. J'ai été directeur d'un centre de jeunesse, ou qui a été rebaptisé centre de formation, qui s'appelait le Louvrain, qui a malheureusement été vendu par mon église il y a quelques années, et que j'ai eu la chance de diriger pendant 10 ans, avec du personnel, un cuisinier, des employés, du personnel de maison, des gouvernantes, avec 62 lits. Et on organisait des conférences avec exactement le même stress que Philippe ce soir, et moi aussi d'ailleurs. Est-ce qu'ils seront tous là pour la conférence? On a compté que vous êtes plus que 30. Et j'ai dû apprendre sur le tas, très jeune, à 29 ans, à organiser des rencontres, des séminaires sur des thèmes d'éthique, sur des thèmes de théologie, sur... le problème de l'homosexualité dans l'Église et dans la société dans les années 80, qui était déjà à l'ordre du jour, et bien d'autres questions, mais aussi des questions politiques, et puis bien sûr des questions médicales et des questions de bioéthique. Comme je l'ai dit, ma femme est non seulement une catholique belge, mais elle est infirmière. Elle a travaillé les 10 dernières années de sa carrière, infirmière, dans les soins palliatifs. Donc je sais que vous avez eu une conférence sur ce sujet dans les semaines précédentes. Et donc c'est un thème qui nous est très cher. Je me suis aussi beaucoup engagé, impliqué, parfois vagaré, car j'ai le 110, vous allez le remarquer, peut-être dans la discussion, peut-être pas maintenant. Je me suis beaucoup bagarré avec les partisans de ce que vous appelez en France mourir dans la dignité, l'association pour mourir dans la dignité, et qu'on appelle en Suisse Exit. Je suis beaucoup bagarré, non pas pour interdire Exit, mais pour discuter l'ambiguïté de leurs propos. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai jamais été pour l'interdiction des vies. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, de mourir comme il l'entend. Le suicide n'est pas interdit, même pour les chrétiens. Vous voyez le débat qu'il y a derrière. L'immense débat qu'il y a derrière pour les protestants, mais aussi et surtout pour les catholiques, historiquement. Et donc j'ai été confronté à des questions de terrain, en rencontrant des gens... Comme vous et moi, des gens qui se posaient des questions de tout milieu, de toute catégorie, des hommes et des femmes, des croyants, catholiques, protestants, orthodoxes, des agnostiques, des athées, etc. Et donc de vivre, sans connaître le concept à l'époque, de vivre ce que je continue à appeler, contre vents et marées, y compris dans votre beau pays, une laïcité ouverte. Car il n'y a pas qu'une conception de la laïcité en France. Non plus. Et en Suisse, nous avons aussi de la laïcité dans nos lois maintenant, comme c'est le cas en Belgique en particulier. Et ensuite, j'ai été nommé à 41 ans, en 1988, je suis né en 1947, j'ai été nommé en 1988 professeur d'éthique à la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, où j'ai exercé pendant 25 ans avant ma retraite en 2013. Puis j'ai été transféré. Ce n'était pas du football, c'était de l'éthique et de la théologie. J'ai été transféré au Genève Servette FC, c'est-à-dire à la faculté de théologie de l'université de Genève. Et donc j'ai la double appartenance à deux facultés qui de loin vous paraissent exactement identiques, mais qui de près sont très différentes dans leur mentalité, dans leur état d'esprit. La faculté de Genève, beaucoup plus centrée sur la théologie. La faculté de Lausanne, beaucoup plus centrée sur les sciences des religions. ça nous a valu des discussions et des débats extrêmement difficiles. Ça, pour que vous compreniez qui je suis, puis que vous voyez le contexte à partir duquel je parle. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas plus de temps, je ne veux pas abuser de votre patience, je veux entrer dans le vif du sujet, mais je répondrai volontiers dans la discussion, bien sûr, comme l'a dit Philippe, je répondrai volontiers à vos questions, même critiques, ou à vos désaccords éventuels, pour qu'on ait un vrai débat démocratique. Le grand débat, il est présent dans l'éthique depuis toujours, il n'a pas été inventé. Qui vous savez. Faites attention à ne pas faire de politique. J'ai pondu une première thèse pour vous ce soir, que je lis, puis je la commente et je la nuance. Les religions ont tendance à défendre des absolus ou à se présenter comme des vérités transcendantes. Ça a l'air d'une banalité, ça a l'air d'une palissade. Je n'ai pas dit le christianisme, je n'ai pas dit la foi chrétienne, j'ai dit les religions. Les religions ont tendance à défendre des absolus ou à se présenter comme des vérités transcendantes. Je ne vais pas trop ergoter sur le sens exact de ces mots qui sont compliqués. J'ai donné à Marie-Christine, par Internet, j'ai envoyé à Marie-Christine deux textes que j'ai écrits, qui sont plus difficiles que ce que je suis en train de vous dire maintenant, peut-être plus effrayants encore, où je m'explique sur ces questions de manière plus approfondie que je ne saurais le faire dans une conférence débat. Mais la théologie, je vous ai apporté mon livre Denis Muller, Dieu, le désir de toute une vie, que j'ai écrit il y a 3 ans, en 2016, petit livre, je me suis dit, après quelques mois de maladie, puis ça valait la peine de se poser la question si je tenais encore à Dieu, si Dieu avait un sens pour moi comme théologien, si ça avait tellement de soi que ça valait pas la peine d'en parler. Et donc je me suis dit, il faut que tu reviennes à tes fondements, à tes bases. Parce que dans l'éthique, on peut parler de tout et de rien. Oui, je suis un peu critique sur ma propre discipline. Dans l'éthique, on peut fuir dans des choses très pratiques. Les gens aiment bien les choses pratiques. Je suis sûr que vous adorez. Mais si c'est pratique, c'est bien, mais ça, on peut éviter les vraies questions. On peut juste parler de choses concrètes, ou de finances. Fuir dans l'avant-dernier, comme disait Bonhoeffer, le grand théologien luthérien Bonhoeffer. Fuir dans l'avant-dernier, plutôt que de s'occuper de l'ultime, du dernier, de l'essentiel. Bonhoeffer ne pensait pas qu'il fallait s'occuper seulement de l'ultime, mais qu'il fallait s'intéresser de comment l'ultime apparaît dans l'avant-dernier, dans les questions secondaires. Donc, loin de moi l'idée d'opposer les deux choses. Mais il faut les articuler, il faut les mettre en relation. Quand on emploie la notion philosophique, très marquée, historiquement, en Occident, chrétien notamment, mais pas seulement, aussi dans la pensée laïque, d'absolu, on ouvre, j'ai fait exprès pour vous ce soir, on ouvre un monde de perplexité. Est-ce qu'on a le droit de parler d'absolu ? Est-ce que l'absolu, ça existe ? Est-ce que tout n'est pas relatif ? En effet, le mot relatif est le contraire, le concept antinomique du mot absolu. Puisqu'absolu, ça veut dire délié de. Ça veut dire absolutus en latin, ça veut dire qu'il n'a pas de rapport avec l'autre, qui existe que par lui-même. Dieu existe comme un absolu pour lui-même, dans une certaine théologie. Alors que un absolu authentique et véritable, une vérité transcendante, n'existe, de mon point de vue, que dans l'immanence ou dans la relativité, c'est-à-dire dans la relation. Vous voyez, il y a un jeu de mots sur relativité et relation. Hein, c'est-à-dire qu'un absolu qui n'est pas en relation avec l'autre, comme disait le grand philosophe allemand d'origine luthérienne, Hegel, est une fausse vérité. Un faux absolu. Un absolu tout seul. C'est un faux absolu. Le vrai absolu, il est en relation avec l'autre. Dieu, le vrai Dieu n'a de sens que s'il sert à quelque chose pour l'homme. S'il n'éclaire en rien notre vie, on peut le laisser où il est. On n'en a pas besoin. Je dis ça de manière un peu vulgaire, un peu simplificatrice. Hein? Parce que si Dieu est, il existe bien pour lui-même comme un absolu, par ailleurs. Vous voyez, je suis entré en pleine métaphysique et je vois des sourcils se dresser quand on est dans l'assistance. Donc je fais très attention de ne pas exagérer, de ne pas aller trop dans la spéculation. Mais j'ai affirmé dans mes travaux et durant mes recherches au fil des années que s'intéresser à la question de l'absolu était une tâche commune aux philosophes et aux théologiens. J'ai un grand ami, que vous connaissez sans doute, mais vous le connaissez moins bien que son frère, qui s'appelle Jean-Marc Ferry. C'est le frère aîné de Luc Ferry. Jean-Marc Ferry est né en 1946, il a une année de plus que moi. Il a 4 ans de plus que Luc Ferry. Et Jean-Marc Ferry est le plus grand philosophe français vivant actuel qui ose penser la question de l'absolu du point de vue philosophique dans la laïcité. Je lui dois beaucoup, et je lui rends toujours hommage partout où je vais, pour la qualité de son travail philosophique, dans lequel il ne prétend pas du tout nous obliger à devenir théologien ou à devenir croyant. Mais comme philosophe, il se coltine avec la question de l'absolu, sans forcément l'appeler Dieu. Et c'est l'honneur et la grandeur des philosophes, comme Jean-Marc Ferry en particulier, de se coltiner, comme j'aime à dire, avec la question de Dieu. Vous voyez que quand je dis la question de Dieu, je ne dis pas la réponse qu'est Dieu, je dis la question de Dieu. Dieu est une question pour tous les êtres humains. Un des êtres humains qui s'occupe le plus de Dieu dans notre société laïque moderne, c'est l'athée. Je ne suis pas en train de faire de la récupération. Je ne suis pas en train de dire que l'athée est croyant. Je suis en train de dire qu'un athée de rigueur se heurte à la question de Dieu tous les jours, sauf qu'il ne sait pas pourquoi il est athée. Donc les athées s'intéressent à la théologie, forcément. Le plus grand d'entre eux, c'est Friedrich Nietzsche, ce grand fils de pasteur luthérien. Il y aura des questions dans la suite après, donc je passe plus loin. Donc c'est les religions tout ensemble, j'ai dit dans la thèse, c'est les religions toutes, et pas seulement les philosophies, c'est les religions. Ça poserait beaucoup de problèmes, mais je n'ai pas le temps de traiter ici. Nous, quand on entend les religions, notamment dans le milieu catholique protestant, on a tendance à restreindre au christianisme. On a tendance à penser, dans la laïcité bien pensante aussi, que le bouddhisme n'a pas de Dieu. Que le bouddhisme ne s'intéresse pas à la question de Dieu. Je ne suis pas spécialiste du bouddhisme, mais je sais qu'il y a des bouddhistes qui croient en Dieu et des bouddhistes qui ne croient pas en Dieu. Donc le bouddhisme s'intéresse aussi à la question de Dieu, en lui donnant des réponses différenciées. Et puis je n'ai pas besoin d'évoquer plus longtemps que par une allusion le fait que naturellement, sous toutes ses formes, la grande religion qui est l'islam s'intéresse à la question de l'absolu de manière fondamentale, et aussi philosophiquement, pas seulement théologiquement. Alors ça c'était pour les religions, pas seulement le christianisme mais les religions. Comprenez bien, je ne suis pas un relativiste. Je ne suis pas en train de vous dire que les religions c'est toutes les mêmes, et puis que le christianisme est une religion parmi d'autres, et puis que je renonce à affirmer la spécificité du christianisme. Je sais de le faire pour ma part, comme théologien chrétien, mais pas de manière intolérante et absolue, ou absolutiste, mais en pensant à la question de l'absolu de manière ouverte, de manière pluraliste. J'y reviendrai. La deuxième thèse que j'ai rédigée, je vais aller un peu plus vite, sous la surveillance de mon portable et de mon président, c'est que la bioéthique est traversée de contradictions et livrée à un nécessaire pluralisme. Je ne suis pas spécialiste non plus de la bioéthique. D'ailleurs, la bioéthique, vous l'aurez vu dans les conférences précédentes, j'imagine, j'avais conduit en son temps l'article bioéthique de l'Encyclopédie du protestantisme en 1995, dirigé par mon collègue Pierre Gisel de l'Université de Lausanne. Et j'avais fait l'article bioéthique et je l'ai écrit la nouvelle version quand l'auteur qui avait écrit la première version est décédé, Anthony Dyson de Manchester. J'ai réécrit la deuxième version bioéthique pour essayer de dire comme théologien chrétien ce que nous devions penser comme protestants, en particulier, de la bioéthique. Mais la bioéthique, d'une certaine manière, est devenue un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que la bioéthique est devenue une science dans le monde entier, surtout dans le monde euro-américain et japonais, est devenue une science tellement sophistiquée, tellement complexe, traitant de tellement de sujets à couper en rondelles, que toute l'éthique est devenue bioéthique. et que les lois de bioéthique, comme vous dites, en France, par la décision du président Mitterrand à l'époque, quand il a créé le Comité national d'éthique, et non pas de bioéthique, et puis les lois de bioéthique qui sont arrivées en même temps, à peu près, la bioéthique est devenue synonyme de l'ensemble des questions éthiques. Si bien quand on traite de la question de l'interruption de grossesse, qui est encore une question éthique après la loi Veil, pas seulement avant, c'est toujours une question éthique ouverte, qu'on peut discuter de manière démocratique, dans tous les pays du monde, pas seulement chez nous, l'avortement ou l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, n'est pas une question bioéthique. C'est une question éthique normale. Pas une question bioéthique au sens d'une éthique des sciences, des biotechnologies. L'acte d'avortement n'est pas, comme vous savez, enfin, certains des actes de l'interruption de grossesse ne sont pas des actes biotechnologiques complexes. Ils sont douloureux et violents pour certaines femmes, mais ils ne sont pas pour autant biotechnologiques. Sauf quand ils le deviennent ou qu'on décide d'utiliser les biotechnologies pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. Donc il ne faut pas tout réduire à la bioéthique. La bioéthique n'est qu'une partie de l'éthique. J'ai une conception assez critique de ce produit-là, vous voyez, un peu réactive par rapport à la mode qui voudrait que la bioéthique soit le nec plus ultra de toute l'éthique. Si on veut faire bien le paysage public, on veut parler d'éthique, on fait de la bioéthique. Mais si vous lisez les articles de bioéthique dans les revues spécialisées américaines ou japonaises, je ne lis pas le japonais, mais les traductions anglaises, les japonais sont très avancés dans le domaine de la bioéthique, il faut se lever tôt. C'est une complexité scientifique extrêmement élevée. C'est une éthique très compliquée. Alors que vous le voyez bien par les médias, par le débat public, par les questions dont se saisit le Comité national d'éthique en France ou dans d'autres pays, dans les commissions d'éthique, vous voyez bien qu'en même temps, les questions d'éthique en général et de bioéthique en particulier sont en principe compréhensibles et accessibles et surtout concernent monsieur et madame tout le monde, de toute évidence. Mais avec une médiatisation, je parle même, je ne veux pas tirer sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu la mode, mais sont devenus, je parle plutôt de la médiatisation au sens large, les médias sociaux n'étant qu'une partie de la médiatisation, la médiatisation à outrance de la bioéthique a fait que tout le monde discute de bioéthique sans pas forcément en connaître quelque chose. Et je ne suis pas en train de faire un plaidoyer élitaire pour dire que seuls les spécialistes doivent s'intéresser de l'éthique. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que si on veut faire de la bioéthique sérieusement, il faut travailler. Il faut se donner du temps, il faut étudier, il faut lire des textes contradictoires. Et donc la bioéthique, contrairement à certains discours reçus en France, comme en Suisse, comme en Belgique, dans la francophonie, la bioéthique n'est pas une évidence. C'est un peu, si vous voulez, je pourrais faire la comparaison, c'est un peu comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le même statut. Je m'explique. Je suis un partisan absolument décidé de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'universalité de ces droits. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas un fait établi que tout le monde a qu'à lire le matin en se levant, et puis il n'y a qu'à appliquer, et puis c'est bon. Les droits de l'homme, je préfère dire droits de l'homme avec un H majuscule que les droits humains, parce que vous n'auriez pas d'idée de dire les droits enfantins ou les droits animaux. Donc c'est les droits de l'homme, c'est-à-dire de l'homme et de la femme que vous êtes. Eh bien les droits de l'homme, ou de l'être humain, de la personne humaine si vous préférez, ne sont pas une évidence à disposition. C'est un idéal à conquérir tous les jours, tous les matins. On le voit par le combat actuel contre le racisme, contre l'antisémitisme. Les gens ne croient pas aux droits de l'homme, si je peux dire des choses de manière aussi sommaire, aussi générale. C'est plus compliqué, naturellement. Il y a des gens qui ne croient pas du tout aux droits de l'homme. Et donc, il faut chaque matin, quand on parle des droits de l'homme, se lever, prendre son bâton de pèlerin, même si c'est un pèlerin tout à fait laïque, et montrer pourquoi les droits de l'homme sont un idéal absolument incontournable de toute société qui se prétend humaine, et de toute démocratie par conséquent aussi. Et donc, mais les droits de l'homme peuvent être discutés. Les droits de l'homme ne sont pas à asséner comme ça, c'est comme ça, puis si tu n'y crois pas, t'es un mécréant. Les droits de l'homme ils ont été discutés par la Déclaration américaine, qui, je vous rappelle, a précédé la déclaration française. C'est les Américains qui ont créé les droits de l'homme, c'est les Français qui ont suivi. Il faut toujours rappeler ce qu'Anna Arendt a montré dans son livre sur les droits de l'homme, sur la révolution. Hein, donc c'est la déclaration américaine et la déclaration française, à la même époque, qui ont fait des droits de l'homme, puis ensuite la déclaration universelle de 1948, qui ont fait des droits de l'homme un idéal à poursuivre. Et bien de même, la bioéthique, c'est un horizon de sens éthique pour les domaines de la biotechnologie, bioéthique, éthique du vivant, qui demande tous les jours à être réaffirmé, rediscuté, et qui n'est pas à imposer de manière dogmatique par qui que ce soit, et évidemment pas plus, surtout pas par les églises toutes seules, mais pas non plus par les laïcs qui existent encore dans notre société. J'emploie le mot laïcs, personnellement, toujours, pour parler bon français, parce qu'il y a des laïcs, mais on m'a dit qu'en France, j'avais pas le droit de le dire. Vous n'êtes pas sorti encore. Ce qui me plaît dans la bioéthique, ce qui m'intéresse dans la bioéthique, ce qui est extraordinaire dans la discussion bioéthique, il faut rappeler quand même que la bioéthique, elle a été créée par les Américains, les médecins américains, dans les années 60. C'est une science neuve. Hein, la bioéthique est une science, elle a comme humanité, 50 ans et un peu plus. Hein, elle a environ 50 ans. La bioéthique, elle vit tous les jours dans les revues, dans les colloques, dans les comités d'éthique, du débat interne, constant, permanent. La bioéthique est un débat et la bioéthique, elle part du pluralisme fondamental des conceptions éthiques qui habitent notre société. Donc les religions cherchent l'absolu mais sont obligées de le relativiser, c'est la thèse 1, et puis la bioéthique est traversée de contradictions, elle n'est pas du tout unanime. Et elle est livrée à un nécessaire et salutaire pluralisme. Le pluralisme n'est pas le relativisme, encore une fois. Le pluralisme, c'est le fait que nous coexistons démocratiquement et philosophiquement dans une société ouverte avec le droit de penser différemment. C'est la liberté de penser, fondamentalement, des Lumières et de la Révolution française. C'est pour ça que j'essaye dans mes travaux, et ce soir devant vous brièvement, de suggérer une conception plus dynamique, plus exigeante des religions et plus ambitieuse pour la discussion bioéthique. Alors maintenant, il y a comme un chiasme, vous savez, un chiasme, c'est ça. Il y a un chiasme, on peut renverser les choses, les voir par l'autre bout. Il y a comme un chiasme qui est dans mes thèses 4 et 5. Je me suis rendu compte, après avoir rédigé mes thèses, qu'il y avait un chiasme. Je ne l'ai pas voulu. C'est arrivé tout seul. Dans la rédaction, mais c'est souvent comme ça quand on écrit des thèses. Le pluralisme n'est pas trop étranger aux religions, entre elles ou en leur structure interne. Les religions, comme la bioéthique, les religions sont pluralistes. Le christianisme est fondamentalement pluraliste, en son sein même. Je n'arrive pas à voir sur votre couleur, votre coloration, si, lesquelles parmi vous sont catholiques et lesquelles sont protestantes. J'essaye, mais j'arrive pas, parce que ça ne voit pas dans les premières dans les questions, mais ça ne voit pas dans les... Je sais ce qu'est Philippe, mais je ne sais pas pour la plupart des autres, je ne connais que quelques-uns parmi vous. Mais il faut dire, que l'on soit comme moi protestant, marien, catholique, que l'on soit catholique, que les religions sont pluralistes, parce que le catholicisme lui-même est une religion intrinsèquement pluraliste. Je sors d'un débat houleux à la télévision hier soir entre M. Frédéric Martel, auteur d'un brûlot que j'ai critiqué dans le journal Le Temps et qui s'appelle Sodoma, et puis Mgr Moreyrou, l'évêque de Fribourg, Lausanne et Genève. Hein? Et puis il y avait une des journalistes catholiques français et d'autres dans cette émission infrarouge que vous pouvez peut-être atteindre dans vos réseaux depuis Belfort. On a tendance à oublier qu'il n'y a pas que le protestant. Le protestantisme, il est pluraliste parce que le protestantisme est un générateur naturel de sectes. Vous savez, tous les protestants le savent. On leur a tellement souvent reproché, ou l'Église catholique conservatrice, quand elle est conservatrice, leur a tellement fait savoir qu'ils étaient la graine de sectaires, que les protestants que nous sommes, si nous le sommes, avons parfois fini par penser que nous étions nous-mêmes potentiellement des sectaires. Et que ce n'était pas pour rien que dans le protestantisme, il y avait des darbistes étroits, mais heureusement, des darbistes larges. Là, vous savez qu'il y a des darbistes larges très ouverts. Donc parmi les sectes, il y a les ouverts et les fermés. On n'a plus le droit de dire secte dans le langage politique encore. On dit des nouveaux mouvements religieux. Moi, je ne sais pas le langage de M. Alain, tout le monde disait secte. Le grand théologien allemand, au nom impressionnant, le Prussien Adolf von Harnack, un des plus grands historiens du XXe siècle, avait dit que le christianisme, était une secte du judaïsme qui avait réussi. C'est une phrase célèbre et évidemment historiquement absolument impeccable. Personne ne peut contredire cette thèse de Harnack. Elle tient la route, personne ne l'a contredite. Au fil des études historiques, personne n'a réussi à démontrer que Harnack s'était trompé. Le christianisme est une secte du judaïsme, une secte qui a réussi. Parce qu'une secte qui réussit n'est plus une secte. Par définition. Une secte qui réussit. Je rappelle, c'est mon ami, l'historien des religions, Jean-François Maillère, qui avait fait une étude une fois humoristique pour montrer comment à la Chaux-de-Fonds, pas loin de chez vous, pas loin de chez moi, dans le canton de Châtel, à la Chaux-de-Fonds, un groupe religieux a été une fois condamné par le tribunal parce qu'il draguait les enfants. On parlait pas de pédophile, il y avait. Parce qu'il draguait les enfants et qu'il les menaçait dans leur liberté de penser. Et ils ont proposé d'interdire cette secte qui s'appelait, comme vous le savez, l'armée du salut. Donc, on ne voit pas que l'armée du salut ait correspondu à cette idée, à cette rumeur, à cette insinuation malveillante à l'égard. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir chez l'armée du salut des choses pas très catholiques. Ça ne veut pas dire. Mais, vous voyez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement le catholicisme qui peut se discuter, mais qui ne devrait pas trop se discuter. Quand vous discutez avec trois théologiens catholiques autour d'une bière, vous voyez bien qu'ils ne pensent pas la même chose, heureusement. Il y a une liberté de penser dans le catholicisme qui est beaucoup plus grande que ce qu'on croit. Et qu'il y a même des papes encore vivants qui vivent tous les deux à Rome, qui ne pensent pas exactement la même chose, heureusement. Vive la démission des papes. C'est-à-dire vive la liberté de penser. Et donc, c'est quand même le legs le plus important de Ferdinand Ratzinger, d'avoir démissionné. C'est son legs spirituel le plus fondamental. J'ai un peu d'humour, j'espère que les amis catholiques dans la salle ne m'en voudront pas. Ou je me défendrai volontiers si je suis une autre chaîne, si vous pensez que je manque de pudeur ou de respect. Ce n'est pas le cas, soyez en sûr. Ce qui m'intéresse, c'est que cette pluralité des confessions, du protestantisme, du catholicisme, de l'orthodoxie elle-même, avec ses apparences intangibles, n'est pas seulement un effet de l'histoire, n'est pas seulement un débouché moderne. C'est ce qui arrivait comme ça, parce qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement, nous savons tous, c'est-à-dire chez saint Augustin, c'est-à-dire chez Tertullien, c'est-à-dire chez les pères de l'Église, c'est-à-dire au IIe siècle, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, au commencement, il y avait qu'un seul christianisme, qu'un seul judaïsme, qu'une seule religion. Vous voyez bien que ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ne sont pas ce qu'on appelle les gens d'un même parti. Ils ont des conceptions théologiques diamétralement opposées. Le pluralisme est démontré par le grand exégète allemand Ernest Kesemann. Le christianisme, il l'a montré dans tous ses travaux de manière magistrale, le christianisme est une religion profondément pluraliste. Vous voyez qu'il n'y a pas, dans mon propos, j'espère que vous l'entendez, la moindre intention d'ironiser ou de dévaloriser les phénomènes décrits par cette manière de parler. Le pluralisme n'est pas une infamie. Le pluralisme est à la fois un fait, une réalité, et puis une chance. Ça veut dire que la discussion est possible. Et ce théologien sans doctorat et sans publication, qui n'a pas survécu au principe américain du publish and perish, je veux parler de Jésus de Nazareth, ne pensait pas souvent la même chose que les gens auxquels ils s'adressaient, ou par rapport auxquels ils se distanciaient. Donc le pluralisme, la discussion critique, l'ouverture d'esprit, le débat, sont inhérents, en particulier au christianisme, tel que j'essaie de vous le présenter, sous ma propre responsabilité, mais en espérant trouver auprès de vous un minimum d'adhésion. Il me reste combien de temps, Président ? 20 minutes, hein, si je... Un peu plus. Sur les 25 minutes, c'est bien. Tu vois, j'ai dû d'abord consulter toi, j'ai contrôlé sur mon téléphone seulement après, pour garder le sens de la hiérarchie des choses. J'ai dit que le pluralisme, dans ma thèse, le pluralisme n'est pas étranger aux religions, c'est ce que j'essaie de vous dire ici, et je l'ai dit spécifiquement pour le christianisme. En leur structure interne, pour elle-même, le christianisme est pluraliste en lui-même, mais il est aussi pluraliste dans ce qu'on appelle dans la théologie des religions, c'est-à-dire la capacité de discuter des autres religions. Il n'y a pas qu'une manière, vous voyez bien dans le débat sur l'islam aujourd'hui, si compliqué, si difficile, de quel islam parle-t-on ? Est-ce qu'on connaît le Coran ? Est-ce qu'on connaît la tradition coranique ou pas ? Et comment on la connaît ? De première main ou par la rumeur seulement, etc. Mais il n'y a pas qu'une seule manière d'articuler le christianisme et l'islam. Il y a des grands théologiens, des grands penseurs et des grands philosophes qui ont essayé de le faire, qui nous proposent des synthèses. Idem pour l'hindouisme ou le bouddhisme, si je parle de ces religions orientales naturellement aussi. Et donc, dans l'articulation même des religions entre elles, d'une part, il y a un pluralisme légitime, et puis d'autre part, on ne peut jamais discuter des religions ou faire de la théologie comme si les agnostiques et les athées n'existaient pas. On le fait toujours devant le forum. C'est ça le sens le plus profond et le plus positif et le plus valable de la laïcité ouverte, comme si on pouvait discuter de la vérité ou de l'absolu des religions et de l'absolu du christianisme ailleurs que dans le forum de la discussion critique de la laïcité. La laïcité n'est pas supérieure aux absolus de la religion, mais elle est le cadre naturel dans lequel la discussion peut s'exercer. Et c'est pourquoi en particulier, mais pas du tout de manière exclusive naturellement, les protestants, surtout les réformés et les luthériens, mais il y a aussi des évangéliques qui se rallient à ce point de vue, sont en principe capables d'articuler la foi chrétienne et la laïcité. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais il y a une articulation à des niveaux différents. J'espère que je ne suis pas trop compliqué pour vous, je sais que je suis un peu, pas trop, j'essaie de le rendre sensible, accessible avec de l'humour et avec quelques exemples, quand je peux. Ma thèse numéro 5, dans ce que j'appelais le chiasme, s'énonce ainsi, vous pouvez la retrouver sur les feuilles. Quant à la bioéthique, elle est elle aussi en quête de vérité et d'universalité. Il y a donc rivalité féconde entre ces deux domaines, entre la bioéthique et la religion. Il y a rivalité féconde. Ici, je me fais davantage philosophe que théologien. C'est une des choses que j'ai appris à faire dans ma vie de théologien protestant. C'est d'aimer davantage la philosophie ou de l'utiliser davantage. Je le dis parce que, contrairement au catholicisme, parce que là je vois un point de supériorité du catholicisme sur le protestantisme, contrairement au catholicisme, le protestantisme a longtemps été incapable, ou non désireux en tout cas, de penser sérieusement le problème de la philosophie. L'exemple concret, c'est que les étudiants en théologie catholique dans les années 60, ça a un peu disparu malheureusement plus tard, mais ils faisaient 4 ans de propédeutique, comme on disait. Il ne faisait que de la philo pendant 4 ans. Certes, il ne faisait que du thomisme, il ne faisait que Aristote et saint Thomas d'Aquin. J'exagère, bien sûr. Mais il avait tendance à ne faire qu'une seule philosophie, la bonne, la juste, la catholique. hein, c'est-à-dire le thomisme aristotélicien. Tandis que les protestants, moi en faculté de théologie en 1966, vous voyez j'avais 19 ans, à Neuchâtel, on m'a fait suivre deux cours de philosophie en faculté des lettres, point final. Et mes deux cours c'était quoi? C'était le grand professeur Fernand Brunner, remarquable spécialiste de la métaphysique, qui nous donnait un cours sur la philosophie arabe pendant un semestre, et puis après un cours sur le philosophe René Lecesne, dont vous vous souvenez tous, qui était le maître de Fernand Brunner et un très grand philosophe français des années 30. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais qui est un très grand philosophe. Et il nous donnait un cours sur son maître, sur son prof. C'est tout ce que j'ai fait comme philo, la philosophie arabe et René Lecesne. C'était pas inutile. En plus, Fernand Brunner pensait, vous savez, Emmanuel Kant, le grand philosophe protestant du XVIIIe siècle, un des maîtres à penser de l'éthique. Aujourd'hui, historiquement, Emmanuel Kant signifiait et signalait le début du déclin de la philosophie. Quand on entre en modernité avec Kant, la philosophie perd son âme. Il pensait qu'on était dans le déclin depuis le XVIIIe siècle. J'étais en désaccord total avec mon prof de philo. Parce qu'un protestant qui fait de la théologie ne peut pas se débarrasser de Kant. On est obligé de savoir que Kant a eu une influence considérable sur Karl Barth et sur d'autres. Et sur Bultmann et sur d'autres théologiens protestants. C'est un peu technique ce que je vous dis là, c'est un peu le cours de philo de base que j'ai eu donné à mes étudiants dans mes jeunes années. Mais vous voyez, l'enjeu, c'est pas Kant ou pas Kant, c'est pas le nom du philosophe, c'est pas la spécialisation. L'enjeu, c'est est-ce qu'on peut faire de la théologie, pour moi, comme dans mon métier, ou est-ce que, mais comme vous pouvez en faire chacun vous-même si vous le désirez, naturellement, à votre manière. Et est-ce qu'on peut être chrétien, tout simplement? Est-ce qu'on peut être chrétien sans réfléchir de manière cohérente au plan philosophique? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on doit? Je vous ai prononcé très rapidement le nom illustre de Karl Barth, 1886-1968. Je n'ai juste pas pu le rencontrer parce qu'il est mort en décembre 68, puisqu'on était occupé à autre chose dans ces années-là. Mais je lui ai consacré en 2005 un livre de 350 pages pour essayer de discuter sa pensée. Vous le trouvez aux éditions du Cerf. Ça s'appelle simplement Karl Barth. Et Karl Barth avait un frère philosophe, Heinrich Barth. Et il discutait avec son frère tous les jours à la maison. Et puis après, quand ils étaient profs d'Uni tous les deux, il discutait tous les jours avec son frère. Tu fais quoi en philosophie? Pourquoi tu t'intéresses à Platon? Puis pourquoi moi je m'intéresse à Saint-Augustin. Et donc, aujourd'hui, dans le monde positif de la laïcité que j'ai essayé de vous dépeindre et de vous décrire rapidement, règne non seulement une reconnaissance positive du pluralisme, mais aussi une tendance morbide au relativisme. Et là, amis catholiques qui êtes dans la salle, j'ai l'air de parler comme un pape. Parce que comme le pape Ratzinger en particulier, qui a commencé son pontificat la veille de son élection, a fait un discours contre le relativisme qui lui a valu son élection, d'après les spécialistes du Vatican. Parce qu'il a fait un discours tellement convaincant contre le relativisme que ça a emporté l'adhésion. Et c'était bien les idées personnelles qu'avait le cardinal Ratzinger avant de devenir Benoît XVI. Mais je suis d'accord sur ce point précis, si tant est que mon opinion l'intéresse, vous intéresse. Je suis d'accord sur ce point avec Benoît XVI et avec la plupart des penseurs catholiques. Comme protestant, je suis d'accord avec le fait que le pluralisme n'est pas synonyme de relativisme. Que la philosophie ne doit pas discuter les opinions des uns et des autres, simplement pour dire que de toute façon tout le monde pense le contraire et que ça n'a pas d'importance. La philosophie, pas plus que la théologie, ça c'est ma conviction profonde, et je suis un philosophe amateur, je ne crois pas beaucoup à la philosophie de ce point de vue-là, comme théologien. La philosophie doit poursuivre la vérité, chercher la vérité en permanence. Alors, des deux articles que j'ai donnés à Marie-Christine pour mettre sur votre site portent sur la question de l'intensité de la vérité. L'intensité de la vérité. Le fait que la vérité, vous voyez, il y a une sorte de... C'est un peu synonyme, l'absolu et la vérité, comme j'en parle ici. Chercher l'absolu, chercher la vérité, la question de l'absolu, la question de la vérité, c'est un peu la même question. Précisément, je le formule en termes de question et non pas en termes de réponse. Parce que je ne connais pas la réponse. C'est pas parce que je dis comme théologien chrétien que pour moi la réponse ressemble à ceci ou à cela, ce que je peux dire, que c'est vrai, que c'est vrai. C'est une proposition de sens que le théologien peut émettre, que le chrétien peut dire. Peut dire pour moi, quand vous discutez avec un membre de votre famille, un ami, un voisin, un collègue de travail qui ne partage pas vos convictions chrétiennes, si vous êtes dans cette situation-là, la discussion est légitime et tout interlocuteur sincère dans un dialogue, dans un débat, dans un grand débat, tout interlocuteur sincère pense qu'il peut lui-même apporter une certaine réponse à la question de la vérité. Et il faut reconnaître à chacun le droit et le fait qu'il peut le faire. Et qu'on doit l'écouter comme tel. C'est écouter ce que le grand philosophe et sociologue allemand Jürgen Habermas, le maître de Jean-Marc Ferry, appelle justement la prétention à la vérité. Pas prétention au sens négatif que ça a en français, d'être prétentieux, mais au sens d'émettre un Anspruch, comme on dit en allemand, d'émettre une intention de vérité, d'émettre une prétention, c'est le sens du mot français prétention, quand on prend bien, d'élever un droit à dire que moi, je voudrais que ce que je dis soit reçu comme vrai. Le mathématicien peut le faire, le physicien peut le faire, le scientifique peut le faire, et la communauté scientifique vit cet idéal de vérité, ou comme a dit le grand épistémologue autrichien Karl Popper, de falsification de la vérité, c'est pas forcément la vérification, ça peut être simplement la falsification, mais il n'y a pas de communauté scientifique, je parle sous le contrôle de ceux qui parmi vous le sont, il n'y a pas de discussion scientifique possible s'il n'y a pas le postulat de la possibilité de la vérité. Ou en tout cas de montrer ce qui est faux. La falsification au sens de Popper. Et donc, dans la bioéthique, ceci se passe aussi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se scandaliser quand quelqu'un, et ça c'est là je marche sur des œufs évidemment, il ne faut jamais se scandaliser quand dans la discussion bioéthique, comme dans la discussion politique d'ailleurs, quelqu'un émet des thèses mal pensantes ou des thèses politiquement non correctes. C'est peut-être scandaleux, je ne vais pas donner d'exemple parce que c'est trop casse-gueule, il y en a trop, on pense à trop de choses, mais avant de dire « tu n'as pas le droit de dire ça », il faut peut-être s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il dit ça et est-ce que ça ne pourrait pas avoir une part de vérité. De nouveau, pas dans le sens du relativisme, mais dans le sens de la recherche de la vérité. C'est pourquoi je dis dans la thèse 6, et je l'ai un peu évoqué maintenant, et vous trouverez le nom de Jürgen Habermas, c'est pour ça que je ne l'ai pas épelé sur le papier à la thèse 6, la théologie comme l'éthique, c'est les deux métiers que j'ai exercés, dont je vous parle ce soir, la théologie comme l'éthique, ou la recherche de l'absolu religieuse comme la recherche bioéthique de la vérité, suppose une éthique de la discussion. C'est une expression intéressante en philosophie française que l'expression éthique de la discussion. Parce qu'en allemand, je me pique un peu de pensée allemande, j'ai fait ma thèse sur la théologie allemande, puis je lis beaucoup de philosophie allemande, en allemand, Habermas parle de discours éthique. Il ne parle pas de discussion éthique, il parle de discours. Ce qui veut pas dire seulement le discours, mais ça veut dire l'argumentation. Le discours en allemand, c'est l'argumentation rationnelle. Donc ce que, et j'étais très étonné et déçu que dans le débat français que j'ai suivi sur les chaînes de télévision françaises, les nombreuses que j'arrive à capter en Suisse, cette discussion de Jürgen Habermas et de Jean-Marc Ferry semble ignorée de la crème de l'intelligentsia française jusqu'au sommet de la présidence. On n'a jamais entendu parler de ça. Il n'y a pas un mot d'Emmanuel Macron dans son livre Révolution sur l'éthique de la discussion. Alors je sais bien, on ne peut pas être à la fois l'ami de Merkel et de Jürgen Habermas. Hein, on peut pas, faut pas trop donner à l'Allemagne. Je blâme. Parce que je ne blâme pas du tout. Je pense que je suis un Européen convaincu, comme je vous l'ai dit. Et je trouve qu'on devrait tous ensemble, davantage tenir compte de la contribution de Habermas, puisqu'elle a en France, avec Jean-Marc Ferry, un représentant éminent de cette éthique de la discussion. Cette éthique de la discussion est la seule éthique qui est capable de soutenir le débat démocratique et la vie en société. Et une des misères du débat, vous me permettrez de le dire, comme je le ressens comme Suisse, sans faire de politique politicienne, une des misères du débat entre les gilets jaunes et la société française aujourd'hui, c'est l'absence de cet horizon de sens d'une éthique de la discussion. Comme si la discussion devait être remplacée uniquement par l'action, par des réponses financières. Mais comme si le moment de la discussion n'avait pas une légitimité pour lui-même qui devait être poursuivie jusqu'au bout. Je sais bien qu'il y a des exceptions, je sais bien qu'à sa manière, le mal-pensant Alain Finkielkraut, qui est quand même un des grands penseurs philosophiques français du moment, malgré tout ce qu'on dit de mal de lui, arrive à le dire, autrement que Habermas, avec un autre langage. Mais aussi peut-être parce qu'il connaît les origines de la pensée juive à laquelle il se réfère. Je ne sais plus pourquoi Marie-Christine, où est-ce qu'elle est Marie-Christine? Je ne la vois plus. Elle est en face de moi. Je te cherchais tout au fond de moi. Je ne sais plus pourquoi Marie-Christine, quand dans nos échanges de mails et de courriers, ça doit être, je l'impute à moi et pas à toi, j'ai glissé de l'absolu et du relatif et puis de la bioéthique et puis de votre thème de la bioéthique au thème du compromis. Je ne m'en souviens pas. Peut-être que tu...
C'est parce que tu avais parlé de Ricoeur.
Mais pourquoi j'ai parlé de Ricoeur? Parce qu'on parle toujours de Ricoeur. Bon. 5 minutes, hein. 5 minutes. C'est ça. C'est toi qui décides. Donc j'ai encore deux thèses. Thèse numéro 7, le compromis est un outil indispensable de la discussion et de la décision politique. Bien sûr que je souligne l'importance de l'éthique de la discussion. Je ne veux pas dire qu'il faut faire que de la discussion, qu'il faut faire que du grand débat, et puis que les décisions qui vont suivre, je pense vraiment à votre débat français actuel, mais on a les mêmes questions en Suisse ou ailleurs, dans le déroulement du processus démocratique. Je ne pense pas du tout que ça se limite à la discussion pour la discussion. Bien sûr qu'il faut que ça débouche. Là, les gilets jaunes et d'autres ont raison de dire on veut aussi des décisions concrètes, on veut aussi des conséquences, on veut aussi voir si on a été entendu, etc. Mais il faut que tous soient entendus, et pas seulement ceux qui le souhaitent, et par conséquent, le compromis est une catégorie de l'éthique politique incontournable. Alors là, je vous renvoie, j'ai pris avec moi, mais je n'avais pas malheureusement de copie à envoyer à Christine, parce que je ne l'ai pas sous forme informatique, je n'arrivais pas à le scanner, le célèbre article de Paul Ricoeur dans la revue Alternative non violente, c'est un article de 1991, qui s'appelle simplement pour une éthique du compromis. C'est pas un article de Paul Ricoeur, proprement dit, c'est une discussion de Paul Ricoeur, une interview de Paul Ricoeur avec notamment François Vaillant, un des rédacteurs de la revue Alternative non violente. Et j'ai travaillé pendant mes 10 ans au Centre du Louvain avec un collègue, Jean-Denis Renaud, spécialiste de la non-violence, qui a beaucoup travaillé ces questions par rapport à la fonction de la non-violence de Jean-Marie Muller et d'autres, de Lanza del Vasto et de Jean-Marie Muller, dans la, construction d'une action politique responsable. Et Ricoeur n'a pas accepté pour rien d'aller discuter avec François Vaillant dans la revue Alternative Non-Violence sur l'éthique du compromis. Et évidemment, je simplifie parce que je vais arriver au terme de l'exposé, Ricoeur rappelle à quel point il rappelle à la suite des sociologues Boltanski et Thévenot qui ont écrit un grand livre à l'époque où il parle, qui s'appelle De la justification aux éditions du Seuil. Il essaie de montrer que le compromis est tout le contraire de la compromission. Il ne veut pas du tout dire que le compromis c'est s'arranger dans les coins, éviter les vrais problèmes, être lâche. C'est pas une compromission lâche dans laquelle chacun raboterait sur ses exigences et ses prétentions à la vérité, puis dirait bon ben moi je renonce à mon absolu, toi tu renonces à ton absolu, et puis on se met d'accord. C'est un arrangement de coquin. La compromission. C'est un arrangement de coquins où on renonce à la prétention à la vérité de tous. Où on tombe, on succombe au relativisme que je dénonçais tout à l'heure. On succombe au relativisme et à la résignation en disant, puisque de toute façon il n'y a aucune vérité qui peut jaillir d'aucune discussion, alors autant trouver des arrangements pragmatiques et politiques, et puis comme ça on s'en sortira. Vous aurez remarqué que dans les débats politiques d'aujourd'hui, la manière d'essayer de s'en sortir par les entourloupettes, et ça peut venir de tous les côtés, est souvent de l'ordre de la compromission. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au bout dans le courage de la discussion critique, et de cette éthique de la discussion, de cette argumentation vraie et juste. Habermas dit que c'est une discussion sans violence. Vous voyez le lien avec les alternatives non violentes. L'éthique de la discussion, c'est une discussion sans violence. Ça pourrait éclairer aussi ce qui se passe à Paris parfois, me semble-t-il. À Paris en particulier. Vous savez, je vous parle de la France non pas pour faire le malin, mais parce que je me sens profondément concerné par ce que vous vivez. Je me sens français même si je n'ai pas la double nationalité. J'aime votre pays. Et je ne suis pas très heureux de la manière dont il va. Ensuite, vous direz ce que vous pensez vous-même. Vous êtes chez vous, moi je ne suis pas chez moi. Dernière thèse. La recherche et l'affirmation de la vérité se déploient sur le sol d'une pluralité fondamentale d'opinions souvent contradictoires et d'une laïcité ouverte. Je ne dis rien de plus que ce que je vous ai dit maintenant. C'est que la conviction profonde que oui, une société démocratique, ouverte, la laïcité ouverte, vit de la recherche constante et permanente de la vérité. Et c'est pourquoi elle ne peut jamais être l'objet d'une compromission, elle peut seulement être l'objet d'un compromis entre des opinions fortes de part et d'autre. Et c'est évidemment bien plus difficile de faire des compromis que de faire des compromissions. J'ai reçu par hasard ce matin à mon courrier, avant de prendre le train pour venir vous rejoindre, à Neuchâtel, de mon ami Pierre-Olivier Monteil, auteur d'une thèse de doctorat sur Ricoeur et la politique. J'étais dans son jury de thèse à la faculté protestante de Paris il y a quelques années. Le quatrième tome des écrits et conférences de Paul Ricoeur, posthume bien sûr, Politique, économie et société, où vous trouvez de magnifiques réflexions qui poursuivent l'apport de Paul Ricoeur à travers des conférences qu'il a données au fil des années sur des questions qui m'inspirent beaucoup dans le travail que j'ai essayé de vous présenter ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous jugerez utiles de m'adresser.